Bonsoir, vous écoutez bien Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Le Canu Info de ce 11 février 2013 avec Michel et Jean-Pierre dans les studios et Robert en duplex pour aborder tout d'abord l'actualité internationale avec le sujet peut-être le plus... On va ouvrir avec la Tunisie, quoi, où il se passe de drôles de choses. C'est d'ailleurs un peu curieux d'ouvrir avec la Tunisie, parce qu'on a envie de dire qu'à l'heure qu'il est, on ne sait pas bien où on en est. Je ne suis pas sûr que les Tunisiens, ils savent bien non plus. On nous parle d'une classe politique au bord de l'implosion, puisque suite à l'assassinat de Belaïde, manifestation, crise politique, on peut dire, contre-manifestation des islamistes dans la rue, l'UGTT qui lance ses 5000 adhérents en grève pour une journée, le jour de l'enterrement. Là-dessus, cinq ministres d'un parti, pas d'Ennahda, hein, d'un parti du gouvernement, le parti de Marzouki, déclare qu'il démissionne. 12 heures après, il déclare qu'il ne démissionne plus. Une grande confusion dans la situation telle qu'on peut l'apercevoir depuis ici. Je crois que c'est pas beaucoup plus clair pour les Tunisiens. Peut-être Michel, lui, a une vision sur ce qui se passe.
Ce serait miraculeux si les Tunisiens ne savent pas. Ce qu'on peut dire, c'est que la volonté déjà du Premier ministre Hamadi Djebali de former donc un gouvernement qu'il appellerait de technocrates, donc a déjà du plomb dans l'aile, donc ce projet-là, puisque son propre parti, Ennahda, ne l'entend pas ainsi. Donc ils ne veulent pas quitter leur portefeuille ministériel. Ce gouvernement qui est un gouvernement quand même en vue de préparer donc une constitution donc pour le pays. Et on voit mal, effectivement, puisque déjà depuis plus d'un an, hein, il s'y attelle, mais les divergences sont telles qu'on ne voit pas comment, effectivement, un gouvernement d'union nationale donc, pourrait conclure donc, sur une constitution qui puisse convenir à la majorité donc, des Tunisiens. Enfin, non. Ce qu'on peut surtout noter...
Est-ce que la Constitution est à l'ordre du jour pour le moment ?
Pas du tout, non. Ouais. La Constitution n'est pas à l'ordre du jour, mais c'est le problème. Pour l'instant, on voit bien qu'il y a une forme de lobbying qui est pratiquée par Ennahda, qui est le principal parti en Tunisie, mais qui n'a pas la majorité donc, au Parlement. Et ce lobbying est fait par ces militants donc, qui veulent mettre en place hein, une société basée sur le religieux, on ne va pas dire théocratique, mais où le Coran aura une part déterminante. Et de l'autre côté, il y a toute donc, la société, je ne vais pas dire civile, mais tous ceux qui sont empreints de valeurs laïques, donc, qui ne veulent pas entendre parler, et on travaille au jour le jour, par le biais des institutions, enfin de l'école déjà, on impose ses points de vue. Et la radicalisation est telle, et surtout en province, hein, plus qu'à Tunis, qu'aujourd'hui, effectivement, on voit bien que le système politique se délite totalement. Alors la crainte d'Ennahda, c'est qu'elle a surfé donc, sur cette vague de mécontentement tous pourris lorsqu'on a chassé Ben Ali. Donc les islamistes bontins, hein, enfin, dire proches des frères musulmans, donc pas salafistes, passaient très très bien. Au bout d'un an de pouvoir, ce qu'on constate, c'est que d'un point de vue social, les choses ont empiré, pour pas dire les choses autrement, et que le Tunisien de base, qui était content de se débarrasser de Ben Ali et de sa clique, se rend compte que c'est pas avec ce gouvernement, donc sous l'emprise donc des islamistes, que son niveau de vie ça va s'améliorer pour autant. Et toute la difficulté est là, c'est-à-dire qu'en ce moment, on voit bien qu'il y a un basculement. Ennahda pensait pouvoir, grâce au parti centriste hein, dans la coalition, mettre en place un gouvernement et faire passer ses idées. Or, on voit bien qu'il y a un décrochage et qu'une partie donc, des adhérents d'Ennahda se tournent de plus en plus vers les salafistes. Hein, et on a vu plus d'une reprise, donc, et des gens d'Ennahda et des salafistes descendent ensemble dans la rue, qui pour justement demander la libération de gens incarcérés qui avaient menacé ou qui avaient même...
Compris des actes délictueux.
Membre, tout à fait. Et donc on voit bien cette radicalisation dans ces sociétés-là. Et la crainte aujourd'hui d'Ennahda, c'est qu'aux prochaines élections, il perde cette majorité relative et qu'il soit exclu quoi, du jeu politique. Et dans le même temps, on ne voit pas vraiment de parti, de composition digne de ce nom se dégager sur la scène politique tunisienne.
Oui, il y a ce paradoxe parce que Ennahda, bon, la Tunisie n'a pas un grand passé de pratiques démocratiques. Je ne sais pas si c'est d'ailleurs forcément toujours exemplaire qu'à voir chez nous. Mais ce parti n'a pas la majorité. Il se trouve qu'il est le premier, mais il n'a que 39 députés. Et à ce titre-là, on a très fort l'impression qu'il prétend à gouverner tout seul et selon ses propres choix sans tenir compte de ceux avec qui il est obligé de s'allier, par exemple, pour gouverner. Alors je ne parle pas de ceux à qui il s'oppose. Alors on va se poser un peu la question de savoir s'ils vont effectivement finir par accepter des compromis, on va dire, républicains, démocratiques, ou s'ils veulent s'arc-bouter sur une volonté de prise de pouvoir qui peut les conduire au coup d'État, ou alors avec bien sûr la police et les militaires qui sont pas loin de tout ça. Quoi.
Alors là aussi, le nerf de la guerre reste l'argent. C'est tout le problème de l'économie tunisienne qui est très stagnante. Ne parlons même pas effectivement du tourisme hein, qui est en chute libre, mais pour l'industrie manufacturière, il en est de même effectivement. Et la Tunisie se voit concurrencée par les produits équivalents arrivant d'Asie du Sud-Est. Et dans ces conditions-là, donc ils ont besoin d'investissements étrangers. Or, là aussi, là où, par exemple, les Français, nos investisseurs français étaient sûrs, demandaient à Alioumari de retrouver leur bille lorsque Benadi était au pouvoir. Maintenant, ils émettent quelques craintes donc à vouloir investir sur le marché tunisien. La Tunisie en attente donc d'un plan d'aide émanant du G8, mais là aussi pour l'instant il n'y a rien de concret qui se dégage. Quant au FMI, donc pour avoir quelques aides du FMI, eh bien il est clair que ce ne sera pas effectivement avec des mesures sociales qu'on obtient ce type d'aide, et c'est la raison donc du marasme social, économique que traverse ce pays et qui mène à cette crise politique très aiguë.
Voilà. Robert, tu as peut-être quelque chose à ajouter ?
Oui, j'ai pas tout entendu de ce qui a été dit par Michel. Hein, c'était problème de puissance en décibels. Mais sans vouloir doubler ce qu'il a pu dire, je voulais simplement... rappeler que peut-être la Tunisie offre ce particularisme par rapport aux autres évolutions des différents printemps arabes. Hein. Moi, je mets ça entre guillemets, je n'ai jamais vraiment bien cru. Mais enfin, bien sûr, j'ai été heureux de voir des gens se soustraire à la dictature des polices. Mais de là à transformer la société, il y avait beaucoup de chemin à parcourir. Et la Tunisie, effectivement, est peut-être le pays où encore on voit apparaître des éléments qu'on assimilerait à ce qu'on a toujours considéré comme un élément constructif d'une alternative, c'est-à-dire l'évolution du rapport de force entre les classes sociales. Or, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que il y a quand même une force, enfin disons il y a deux forces. Il y a une force réactionnaire, religieuse, qui est de plein pied dans le système capitaliste, tout à fait à l'aise. On laisse on laisse les entrepreneurs s'enrichir, mais on aidera les pauvres à ne pas mourir de faim. Et puis à côté de ça, effectivement, il y a peut-être un héritage. Alors on peut toujours s'interroger sur l'héritage, mais un héritage quand même qui est l'héritage effectivement de la lumière apportée par par tout ce qui concernait l'organisation des travailleurs. D'abord à travers la colonisation, c'est le paradoxe, mais les travailleurs organisés en syndicats et syndicats de classe. Alors, il se trouve qu'il y a un syndicat largement majoritaire, pour ne pas dire unique, et qui donc, pour l'instant, est toujours dominant. Bien qu'il y ait un État politiquement pluraliste en Tunisie, et qui s'appelle l'UGTT, Union Générale des Travailleurs Tunisiens, qui est positionné tout à fait à gauche, qui effectivement a une visée sociale de transformation, l'a affirmé dès le départ. Bon, au départ, à la chute de Ben Ali, elle a connu quelques problèmes, parce que naturellement, elle était plus ou moins noyautée par les Benalistes. Et puis, bon, elle s'est débarrassée de tout ça, et aujourd'hui, il semble bien que l'UGTT apparaît comme, effectivement, la seule structure politico-sociale capable effectivement de poursuivre dans le processus révolutionnaire amorcé il y a 2 ans. Le problème, c'est un syndicat que effectivement il y a des partis laïcs à gauche minoritaires bien présents dans les structures, y compris au gouvernement. On apprend ce soir qu'on ne sait pas trop s'ils sont prêts à continuer à faire quelque chose avec Djebali ou sinon. Ce qui est important, c'est que le débat, il n'est pas simplement un problème de savoir si finalement le peuple tunisien va résister à la mise en place d'une charia soft, c'est-à-dire pas trop scandaleuse du point de vue occidental, ou si effectivement on continue bien l'autre part de l'alternative, c'est-à-dire un gouvernement progressiste qui opère une révolution sociale qui fasse que la Tunisie, qui effectivement, forcément, recule beaucoup, parce que c'était quand même un pays plus ou moins sous alimentation capitalistique occidentale, et notamment française, et que de là, effectivement, comment composer avec celle-ci, comment trouver son indépendance par rapport à celle-ci. On connaît le rôle des banques françaises en Tunisie. Et bon, c'est quelque chose effectivement qui se joue en ce moment. Et ça me semble aussi important de cet autre vrai débat, qui est celui de la reconnaissance effectivement de l'identité de chacun chacune en Tunisie, c'est-à-dire un homme, une femme, et que la femme n'est pas le complément de l'homme, contrairement à ce que certains du courant le plus dur de l'islam a tenté d'imposer pendant la révolution.
Oui. Et puis il y a eu ces réactions anti-françaises aussi, bon, qui ont peut-être été un peu provoquées. Je ne suis pas sûr que l'assertion de Manuel Valls a été très judicieuse dans le climat dans lequel était la Tunisie.
Mais il aurait mieux fait de se taire, bien sûr.
Donc des réactions très anti-françaises de la part des manifestants
Même l'emploi du mot fasciste qu'on peut politiquement accepter, mais on balance pas ça comme ça. Je veux dire, ça doit faire l'objet de tout un débat que d'ailleurs les Tunisiens eux-mêmes doivent avoir entre eux. Est-ce qu'il y a une part de fascisation des forces politiques chez eux? Bon, mais c'est pas à Manuel Valls de décréter que le fascisme islamique est en train de s'installer en Tunisie, quoi. Oui.
Oui, enfin, oui, et puis Michel. L'ingérence française, enfin, ne parlons pas de l'ingérence du temps de la colonie, mais ne serait-ce que sous l'époque de Ben Ali, on s'est bien gardé, effectivement, là, de s'immiscer dans les affaires de Ben Ali et de rappeler, je parle de nos gouvernements, hein, des gens au pouvoir, hein, au gouvernement français, sont bien gardés, effectivement, de nous rappeler que, aussi, c'était un régime quasi-fasciste. Le gouvernement de Ben Ali, c'est aucun droit donc syndical, donc aucun droit non plus concernant les droits individuels. Et il n'y a pas une seule personne politique digne de ce nom qui s'est bien gardée de nous le rappeler, quoi.
Voilà. Tu te rappelles, il y avait un courant dit humanitaire, Ligue des droits de l'homme, qui tentait effectivement de contrer, avec les avocats surtout, qui tentait de contrer effectivement cette dictature fascisante rampante de Ben Ali.
Pour ce sujet, on arrête là. On parle du Mali un petit peu. Bon, il n'y a peut-être pas beaucoup à dire, quoi, si ce n'est que ce qu'on observe, c'est que la guerre continue et qu'elle avance en prenant des formes différentes. On arrive forcément à un moment où ça se passe sur le terrain et c'est bien beau d'investir des villes par les aéroports, mais après, il faut les occuper et les tenir. Donc, à Gao, il y a eu quelques velléité de résistance de la part des islamistes, à la fois par deux ou trois attentats suicides et puis par un commando qui a entrepris d'occuper, on nous parle d'un ancien commissariat de la ville, avec donc un affrontement à la fois des Maliens et qui, quand ils en ont besoin, demandent l'appui des Français, par exemple pour que l'hélicoptère vienne détruire le commissariat en question et donner l'avantage aux troupes régulières, quoi. Voilà où on en est. Il semble que maintenant, s'il faut avancer, c'est pour aborder des zones montagneuses et truffées de grottes dans lesquelles sont sans doute les otages. On n'a pas beaucoup d'informations. Néanmoins, il y a quand même plus de journalistes qu'avant sur le terrain, puisqu'on a parlé d'une évacuation de 50 journalistes à Gao quand les choses ont commencé à chauffer ces jours derniers, quoi. Alors peut-être qu'on finira par mieux comprendre ce qui se passe réellement au Mali. Ça pour les faits, pour l'analyse politique, c'est autre chose, quoi. Michel ?
Oui, on en avait déjà parlé. Donc la première phase de l'intervention française était claire, effectivement, qu'il n'y avait pas l'ombre d'un doute. L'armée française allait investir assez rapidement les villes de Gao, Tombouctou, Kidal. La seconde phase, c'est celle, effectivement, du contrôle du territoire. Maintenant qu'on l'a investi, ça c'est autre chose, puisqu'il n'y a pas eu de bataille. Et pour cause, on sait bien que dans ce type de conflit, du faible au fort, du surarmé au moins armé, donc on va sur un conflit de type asymétrique. Donc tu évoquais les attentats suicides, ce qu'il faut aussi maintenant redouter pour les troupes françaises, ce sont des mines le long du parcours. Et on voit bien là, effectivement, maintenant la difficulté de l'état-major français, c'est celui de refiler le bébé le plus rapidement possible. Alors que ce soit à une force de l'Union africaine ou à une force onusienne, mais il est hors de question de prolonger dans le temps long donc la présence des troupes françaises sur place, car là, effectivement, on aurait à déplorer des morts quasi sûrs. L'autre aspect, c'est on évoque effectivement les islamistes, les Mujaho, Andersen, etc. Mais on omet de dire aussi que si on ne les retrouve pas, s'ils ont fui, une partie aussi non négligeable de la population du Nord, d'origine Touareg, elle aussi n'a pas fait un accueil chaleureux aux troupes régulières maliennes et s'est protégée français, quoi. C'est là aussi la difficulté pour la France. Et il faut pas non plus se bercer d'illusions, c'est-à-dire que on combat des islamistes. C'est bien gentil de nous dire effectivement que c'est une force un peu totalement étrangère donc aux us et coutumes maliens, mais n'oublions pas qu'ils ont aussi l'approbation d'une partie de la population du Nord Mali, et notamment de la population Touareg, qui, par le biais donc de l'islamisme, pensait arriver à ses fins, donc à une scission territoriale du nord du pays.
Voilà, Robert, tu avais autre chose à ajouter, ou sur un autre sujet ?
Oui, simplement, on peut aujourd'hui, c'est facile, on va dire, puis en plus, on est antimilitariste et on n'est pas des stratèges militaires. Il n'empêche que les victoires trop faciles avaient permis ces vols triomphants de Hollande à Tombouctou et à Bamako. Et aujourd'hui, on voit bien combien tout ça, finalement, ça pèse pas lourd dans l'évolution de la situation, et que en bon militaire sérieux, certains disent, j'ai lu ça dans les gazettes, hein, je suis pas spécialiste et puis je m'en garderai bien, que c'était pas d'arriver comme ça en force dans la ville, c'était effectivement de comme se pratiquait la guerre dans les siècles précédents, c'est-à-dire qu'on encercle et puis ensuite on prend d'assaut. Ça veut dire que on est tranquille, parce que ou bien on gagne l'assaut et puis à ce moment-là tout l'ennemi est anéanti. Ou bien ça se passe mal, et puis à ce moment-là, effectivement, ça veut dire qu'on s'est trompé dans la stratégie. Mais simplement de dire on bombarde et puis ensuite on laisse tomber des parachutistes pendant ce temps-là. Effectivement, on en a canardé quelques-uns qui s'enfuyaient, mais la grande majorité des rebelles ont pu gagner des zones protégées pour se mettre à l'abri, et puis donc aujourd'hui revenir pour mener la guérilla à Goa. Semble pas qu'à Tombouctou ils aient cette ambition-là. Je crois que Tombouctou, c'est un petit peu différent peut-être, y compris au niveau de la composition ethnique des populations autour de Tombouctou. Par contre, il semble bien qu'à Goa, effectivement, ça va devenir un abcès de fixation. Et que de ce point de vue-là, il y a fort à parier que les Maliens ne feront pas grand-chose s'ils sont pas, effectivement, et que le gros du travail, ça va être les paras français, ce qui ne va pas améliorer l'image de marque.
Voilà. Michel, tu voulais aborder un autre sujet ?
Dire deux mots de la Slovénie. En Slovénie, donc cette petite république d'ex-Yougoslavie de 2 millions d'habitants est un peu en insurrection, hein, puisque aujourd'hui on a eu droit à la troisième manifestation, donc il y en a une chaque mois, hein, donc elle a ce terme insurrection du peuple slovène. En gros, les Slovènes sortent massivement. Alors 20 000 personnes aujourd'hui pour la Slovénie, hein, pour une ville de 250 000 habitants comme Ljubljana, c'est assez conséquent. Donc 20 000 personnes sont descendues pour demander la démission donc du premier ministre Janez Janša, qui est accusé entre autres de corruption divers, et notamment d'avoir touché des pots de vin dans l'achat de matériel militaire à la société Patria finlandaise. Et il ne veut pas démissionner, donc son gouvernement de coalition, hein, Janša, c'est donc un premier ministre de centre droit. Donc sa coalition a volé en éclats, donc il se retrouve avec 42 députés sur 90. Et d'autres partis de la coalition sont prêts aussi donc à menace de démissionner dans la quinzaine s'ils ne quittent pas le gouvernement. Alors, ce qui est assez symptomatique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu cette manif, et il y a aussi une contre-manif hein, de soutien à Yana Zianscha, donc 10 000 de ses supporters, sbires, partisans, donc sont descendus aussi. Alors, d'un côté, vous avez la manif contre Zianscha, où les gens descendent avec les drapeaux slovènes, avec une connotation qui est vraiment une manif de gauche, et dans un contexte où les indicateurs sociaux donc, sont rouges maintenant depuis plus d'un an en Slovénie. Nous n'oublions pas, la Slovénie c'était vraiment l'état modèle hein, des nouveaux états d'Europe de l'Est qui avaient intégré l'Union Européenne. Et aujourd'hui ils en ressentent donc la crise, les conséquences, notamment depuis 2008. Et de l'autre côté, donc, les partisans de Zianscha descendent massivement avec des drapeaux de l'Union européenne, et c'est la première fois qu'on a une forme de rivalité qui quasi physique, puisque on a eu besoin de la police donc pour séparer les deux cortèges qui ne manifestaient pas officiellement donc sur les mêmes places. Hein. Mais voilà, c'est assez étonnant pour cette république, pour qui connaît la Slovénie, qui est vraiment un petit État. Pas du tout balkanique, hein, c'était la seule des anciennes républiques qui n'était pas balkanique, ni géographiquement, ni dans les us et coutumes, qui était vraiment issue de la Mitteleuropa, de l'Autriche-Hongrie, et qui avait toujours su apaiser donc un peu ces divergences politiques, et là, les choses donc s'enveniment.
Ça veut dire qu'économiquement, ils sont plus compétitifs aujourd'hui
C'est-à-dire que effectivement, là où ils servaient d'exemple, dans un contexte où l'argent ne vient plus, hein, il n'y a plus d'investissement, donc l'économie est moins compétitive. Et bien sûr, le coût des produits manufacturiers made in Slovénie donc sont quasiment égaux à ce que peut pratiquer leur voisin italien aujourd'hui, qui fabrique beaucoup en sous-main au noir quoi.
Voilà, on va dire quelques mots on sait que les Allemands pour fabriquer les machines à laver sont très forts et font des machines qui tiennent le coup très longtemps. En matière de pape, il semble qu'ils sont moins bons parce que au bout de 5 ans, ils sont bons à réformer. Quoi. On apprend aujourd'hui qu'il prend sa retraite. C'est nouveau chez les papes, mais après tout, pourquoi pas? Il a largement atteint l'âge et c'est raisonnable de faire de la place aux jeunes. Ça fera un chômeur de moins.
Il n'a pas dit qu'il prenait sa retraite. Il démissionne. Hein. On ne sait pas s'il a droit à une retraite.
Oui. Oh, bon, on lui offrira.
C'est pas dit non plus qu'il fasse place à un jeune.
On va le parquer dans un couvent, mais couvent 3 étoiles, 4 étoiles. Ouais.
Alors, est-ce qu'il n'a pas supporté de voir le mariage gay installé en France? Est-ce que...
Oui, c'est drôle que ça correspond à cette période-là, oui.
Voilà. Bon, pas d'autres commentaires là-dessus.
C'est vrai qu'il a plein de casseroles. Hein. Bon, c'est pas les siennes, mais elles lui sont tombées sur la tête. C'est normal. Hein. La pédophilie, les révélations de son majordome, toujours des affaires financières scabreuses. Enfin bon, ça manque pas les casseroles. Bon et lui qui se voulait surtout un théologien, c'est-à-dire un type aux mains propres, ça pouvait pas continuer longtemps.
Les mains peut-être, mais les idées pas trop. Hein. Hey, Michel.
Le prochain pape, ce sera peut-être une femme, finalement.
On l'a suggéré.
Ça serait peut-être la grande révolution vaticanesque.
Ouais. Alors oui, apparemment il a annoncé donc, sa démission donc pour la fin de ce mois. Mais les choses sont pas très claires, c'est-à-dire de manière un peu lambiquée, on comprend qu'il ne se sent plus, qu'il est vieux, alors on ne sait pas exactement s'il a une maladie, si la maladie est incurable, s'il n'en a plus pour très longtemps, si c'est Alzheimer, enfin, on peut maintenant supputer surtout. Par contre, il y a un fait que Robert vient d'évoquer, c'est celui effectivement du Vatilix, donc les fuites du majordome Paolo Gabriele. Et qu'est-ce qu'il avait révélé donc il y a un an, Gabriele? Il a révélé effectivement que le pape ne faisait pas autorité au sein de la curie romaine, que les divergences étaient très profondes, et notamment sur les affaires financières, et qu'il était quasiment mis en minorité. Alors, peut-être ceci explique-t-il cela, quoi. C'est-à-dire que j'ai du mal à croire que c'est uniquement pour raison médicale. On a déjà vu l'autre ancien Gaga, Jean-Paul II, aller jusqu'au bout. Il est peut-être à chercher, si on nous le permet, hein, ça va être délicat, mais dans les coulisses de la curie romaine, de savoir effectivement quels sont ces réseaux d'influence, quels sont ces lobbies, et qui fait quoi, et qui décide de quoi, tu as bien évoqué effectivement, plus que un pape charismatique, c'était plus donc un théoricien, donc un théologue qui était plus sur les conceptions internes de l'Église que sur des postes vraiment de management, si j'ose dire. Et donc on verra, on aura peut-être un peu plus d'informations, mais pour moi l'histoire, il se sent plus parce que il est faible. Enfin, j'ai pas trop envie d'y croire pour l'instant.
Ouais, il a plus envie d'assurer le paradis fiscal du Vatican.
Voilà, ce qui m'étonne, c'est la précipitation. Bon, d'habitude, au Vatican, on prend son temps. Là, c'est le 28, je m'en vais, et puis démerdez-vous. Alors là, bon, c'est faut faire venir tous les cardinaux de par le monde, tout ça, c'est faire un conclave, c'est pas une mince affaire. Donc, en même temps, il a l'air de leur dire, bon, bah, écoutez, vous me faites chier, je vous fais chier.
Allez, on fait une pause musicale avant de se retrouver pour le...
Peut-être rappeler aussi qu'il y a... Si vous l'avez dans votre collection, profitez-en pour regarder le film Habemus Papam. C'est le film de Nanni Moretti. C'est très marrant, on se rappelle Michel Piccoli. Ce pape élu qui finalement refuse.
C'est peut-être ça qui a donné des idées, finalement. Allez. Pause musicale sur fond d'actualité, bien sûr.
Que je viens de faire à cheval, c'est une chanson de saillie, ah, chanson de saillie de cheval, moi qui suis esthète de cheval, ah, je trouve ça beau de cheval, génial, admirable, de la peine, refrain. C'est le refrain. Moi qui viens de Grèce, de cheval, je m'appelle au reste de cheval, t'as pas bouffé l'os de cheval, je débarque à Paris de vos, oh oh, quel régalo de cheval, de prendre le métro de cheval, quand on ne connaît pas de cheval, oh, ce qu'on s'amuse au de bœuf et refrain. Le refrain, c'est toujours mes enfants, ma foi, de cheval, sont de vilains grognons de cheval, quand ils pleurent en cœur de cheval, j'essaie de les distraire. Les vaches, je viens à boudin, boudin de cheval, mais les autres aussi sont de cheval, toujours dans le besoin de cheval, ça ne peut pas être pis de chèvre. Non, l'enfant c'est quel est cet aztèque de cheval qu'on vient de voir filer de cheval du haut de la côte de cheval dans le précipice en moto, peut-être bien estomac de cheval qui vient de me ventre de cheval un complet à garrot de cheval et un gilet pied de poule. Allez, maintenant je suis vu comme ça, maintenant je vais m'asseoir, j'en ai marre, je vais m'asseoir. Je désirais m'asseoir de cheval et tu m'as menazo de cheval, canapé en rotin de cheval et mon cœur vous fumiez. Mes cigares, n'étais-je pas l'affronier de cheval qui fourbu sa fesse de cheval, ça fait rire les groupes de cheval, ah, comme l'écurie et gay. Albo saucisson de cheval, ah, chanson de saillie de cheval, ah, je trouve ça beau de cheval, car je suis esthète. De quoi? Esthète de quoi? Esthète de cheval.
Bon, c'était Bobby Lapointe, un grand classique qui revient d'actualité sur le thème « Vive la traçabilité ». Alors, une affaire qui fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose, on a envie de dire, puisqu'il n'y a pas de mort, il n'y a même pas un malade. Il y a des Anglais qui sont un peu allergiques à la viande de cheval. Pourtant, ils avaient un roi, mon royaume pour un cheval, il avait dit. Ça ne devrait pas les rebuter à ce point, mais bon. Toujours est-il qu'il y a des produits vendus avec écrit « bœuf » dessus, et en fait, c'est du cheval. Bon, ça, c'est embêtant, c'est pas normal et tout ce qu'on veut. Ce qui est plus intéressant à analyser là-dedans, c'est de voir que il y a une foultitude d'intermédiaires qui font écran et qui fait que, en fait, quand vous allez acheter un produit Findus chez Monoprix, Picard ou Carrefour, ben, vous savez pas trop ce que vous achetez, contrairement à ce que vous pourriez croire, que Findus abat ses bêtes et les congèle. Non, pas du tout. Dans le cas d'espèces, il semble que ce qu'une Commission européenne aurait mis 2 ans et demi à trouver, en 2 jours et demi, ça a été plié par des enquêteurs judicieux. Findus achète à Comigel, qui est un luxembourgeois qui fabrique donc les produits, qui les achète à Poujol, qui est un français, qui les achète à Chypre, à une boîte chypriote, donc Chypre, qui elle-même les achète à un hollandais, qui est un trader, et ce hollandais donc passant le marché avec les roumains pour des produits qui, paraît-il, sont abattus dans des abattoirs aux normes, tout modernes, avec des investissements européens faits par des grands groupes européens. On n'a pas les noms. Donc on voit que dans tout ça, ce qui est en cause, on est loin d'un produit bio qui vient directement du producteur au consommateur. C'est ce système capitalistique qui veut que sur un produit qu'on cherche à obtenir le moins cher possible, le cheval étant moins cher que la vache, même la vieille vache de réforme de 5 ans qu'on vous vend royalement sous le nom de bœuf, ce qui fait beaucoup mieux, même les vaches de réforme sont plus chères que le cheval. Donc c'était simplement une manière d'économiser sur la matière première pour pouvoir faire des profits tout au long de cette chaîne que je vous ai décrite. Bon, j'en dirai pas plus, peut-être mes collègues ont un petit mot à dire là-dessus.
Oui, on dit que le produit cheval qui normalement, bon, je sais pas si moi je n'ai plus de boucherie chevaline dans mon coin. Quand j'étais gosse, on me faisait manger du bistec de cheval parce que c'était plus nourrissant. Mais je crois que le cheval vaut plus cher encore que le bœuf. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en Roumanie, il y a eu une loi qui fait que les paysans n'ont plus le droit de trimballer leurs chevaux sur les routes. Et que donc ils sont contraints finalement de se séparer de leurs chevaux. Et donc il y a après cette loi, il y a un abattage massif de chevaux parce que les paysans ont vendu leurs chevaux qu'ils ne pouvaient plus utiliser. Et donc il y a une chute du prix de la viande de cheval. Et donc tous les intermédiaires, comme tu dis, ont su faire profit de cette affaire. Oui, c'est à vérifier, mais il semble que c'est solide comme argument.
C'est tout à fait ça, et c'est juste une transcription d'une loi européenne. Oui. Comme vous ne pouvez pas vous balader avec un cheval et carriole sur les routes françaises, sauf autorisation spéciale, etc. Alors que toutes les campagnes dans les pays de l'Est, c'est pour ceux qui n'avaient pas les moyens d'avoir un véhicule motorisé, en général, voilà, c'était tracté par le cheval. Et donc c'est la transcription de cette loi européenne qui a fait que les gens se retrouvaient avec des milliers, pour pas parler de dizaines de milliers de chevaux, et que faire dès lors qu'on ne peut plus s'en servir pour tracter les carrioles, et bien voilà, on la refile aux Européens.
Sous forme de lasagne. Hein,
sous forme de lasagne.
Européen, le budget a été voté, il a été voté en légère diminution, ce qui est la première fois depuis un certain nombre d'années. Cette foire d'empoigne à laquelle on a assisté n'a pas débouché sur une grande politique européenne. Chaque pays s'arc-boutant sur ses avantages, privilèges, rétributions et versements. Et on a en gros reconduit le même système. qu'auparavant, c'est-à-dire qu'on ne touche pas à certains avantages. Les céréaliers français seront toujours aussi bien arrosés. Les vaches corses qui n'existent pas auront aussi droit à leur prime vache allaitante. Et donc, on ne touche à rien. Et par contre, on rogne un petit peu. Et quand on cherche à rogner, bah, sur quoi on rogne? Par exemple, le social et les subventions qui étaient versées pour aider les associations caritatives qui font, hélas, le système qui est adopté, manger un certain nombre de gens quand même dans France, par exemple, mais ont été divisés quasiment par deux. Bon, le gouvernement, dans sa grande mansuétude, s'est engagé à compenser la perte par un versement national, mais n'empêche que cette politique européenne patine et qu'on ne voit pas comment on n'a pas fait l'Europe sociale, on n'a pas fait l'Europe fiscale, on n'a fait que l'Europe financière, et ben c'est celle-là qui se dépatouille et qui essaie d'organiser ses budgets à la satisfaction des 28.
La satisfaction notamment des Britanniques qui, dans leur acception stratégique et idéologique de le moins d'État possible, eh bien, est tout à fait satisfait chaque fois qu'un budget d'État diminue. Ils le font chez eux, ils se sont battus pour que l'Europe fasse de même. Et finalement, l'option britannique est passée contre ce qui est la tradition de l'Europe sociale héritée de la résistance et de l'après-guerre.
Voilà, rubrique nationale, maintenant il faut y arriver quand même, le 36e congrès du PCVF, Laurent réélu, d'autres commentaires ?
Oui, réélu tranquillement, oui, c'est l'homme tranquille du PCF qui est, on va dire, qui a bien été formaté, puisque finalement ses pères, sa famille, ils ont tous trempé dans la direction du Parti communiste, Paul Laurent avant son papa, tout ça. Et donc Il avait été mis sur les rails par Marie-Georges Buffet, mais à une époque où elle croyait encore vouloir pouvoir faire une direction collective. C'était d'ailleurs, aucun des partis ne la pratique, c'est-à-dire mettre une espèce de un triumvirat, une trilogie à la tête du parti. Bon, mais au départ, il y avait bien trois noms, mais finalement, très rapidement. Non pas que Pierre Laurent ait fait un putsch, mais je veux dire, il en est resté plus qu'un. Et puis c'est l'homme qui est resté, comme toujours dans ces cas-là, en général. Et là, ben, il est l'homme qui convient bien par rapport à la stratégie qui a été mise en place à travers le front de gauche. Il y a effectivement... Comme leader, porteur, entraîneur des masses, éventuellement capable de faire voter les gens dans leur sens, c'est Mélenchon. Là-dessus, il n'y a pas photo, c'est Mélenchon. Mais par contre, derrière, il y a effectivement un Pierre Laurent qui part toujours des propos très mesurés, mais qui sont toujours dans la ligne des choix du Front de Gauche, mais des propos mesurés, effectivement. Apparaît l'homme tranquille par rapport à ce que certains dénoncent, pour dire « Oh, mais votre Mélenchon, quand même, c'est un excité, faites attention, bon, etc. » Bon, c'est le couple gagnant-gagnant. Alors, on ne sait pas ce que ça va donner, sauf que le PC, d'ailleurs, comme l'ensemble du Front de Gauche, mais surtout c'est le problème du PC, est confronté à la tactique qui est souvent, hélas, une tactique électorale, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on dit on se bat dans nos déclarations du Front de Gauche pour une alternative liée à l'abolition du capitalisme, donc anticapitaliste, mais en même temps, bon, bah, y a les échéances électorales l'année prochaine, élections européennes, élections municipales, et puis ben là, dans la mesure où aussi jusqu'à présent le PS et que personne vraiment gauche de gauche et même à droite Il n'y a guère que le Front National qui, et puis les Verts qui se battraient pour le retour à une proportionnelle qui permettrait effectivement aux partis d'avoir leur véritable représentativité dans toutes les élections.
C'est un sujet qui est réglé, ça. On a dit 2017. Hein.
Sinon, eh bien, il faut négocier. Ça veut dire négocier avec le grand chef PS. Et puis, ben, ça, pour le PC, ça va être comme d'habitude une épreuve de tactique très compliquée, mais ça fait tellement d'années qu'ils la pratiquent que on va voir s'ils sont capables, avec des nouvelles personnes qui arrivent dans les différentes fédérations du PS, on va voir si étant devenus vraiment des sociaux libéraux, finalement ça leur pose aucun problème de trouver une entente avec les PS locaux, ou bien si vraiment ils mettent en avant la rupture sur le capitalisme comme espèce de ligne rouge qui peut aller jusqu'à des affrontements qui fasse qu'aux élections de l'année prochaine, le deuxième tour ne se fasse pas dans l'unité. Mais on est loin de ça encore. Hein. Mmh. Il y aura la rue, il y aura la bataille sur les luttes sociales, la bataille autour de l'austérité, la bataille autour des différents plans sociaux. Il va se passer pas mal de choses d'ici là. Et il n'est pas dit que ce soit perdu d'avance pour le Front de Gauche et le Parti communiste. On annonce probablement un grand meeting à Marseille au mois d'avril. On a toujours d'ailleurs regretté que ce ne soit pas à Marseille, que ce soit qu'il n'y ait pas eu l'espèce de montée en puissance du Front de Gauche, parce qu'on avait vu combien Marseille, par rapport à tout l'ensemble méditerranéen, c'était important, et que en plus le discours de Mélenchon, mais un discours c'est pas tout dans la politique, avait fait effectivement beaucoup fait un véritable tabac et qu'il ouvrait une perspective qui est pas nouvelle. Hein. Il y a deux Europes, il y a une Europe du Nord, une Europe du Sud. Il s'agit pas de les opposer, mais il s'agit d'en faire le constat. Sinon, sur le plan syndical, eh bien, on a cru lire que CGT et FO vont organiser le 5 mars. Je crois que c'est le 5 mars. Sans doute, il y a Sud, probablement. Là, je l'ai pas sous les yeux, mais il y a probablement Sud et d'autres. Tous ceux qui ont refusé de signer l'accord avec le MEDEF vont effectivement mener le 5, développer dès le 5 et puis peut-être au-delà une bataille pour empêcher le gouvernement de légiférer dans le cadre de cet accord MEDEF, CFDT, CGC, CFTC.
Voilà, Michel, tu voulais intervenir ? Non ? Rien de spécial ? Pour l'histoire des cumuls des mandats, il faudra repasser en 2017. Hein, on nous a déjà donné l'échéance, donc autrement dit, là comme ailleurs, demain, on reste gratis. Quoi. Un mot sur le mariage gay, donc, qui a vu son épilogue à l'Assemblée nationale, l'UMP sifflant la fin de la partie, usé et fatigué, donc 109h30 et 4999 amendements plus tard. Les hommes étaient épuisés, donc l'UMP a lâché le morceau et laisse aller au fil de l'eau le projet de loi qui va donc passer au Sénat et revenir. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire en national ? Pas grand-chose. Ben, il y a cette manifestation, appel à manifester samedi 16 février, place des Terreaux, à l'appel du collectif de vigilance contre l'extrême droite, sur le thème « Ensemble, fermons le local fasciste, la Traboule ». Donc ce comité qui regroupe bon nombre d'associations entend protester contre l'implantation publique des groupes d'extrême droite sur la ville de Lyon. Voilà, d'autres infos, tu, Robert, t'avais autre chose avant qu'on dise quelques mots de culture.
Peut-être rappeler les conditions assez bizarres dans lesquelles va se développer demain cette grève des enseignants. Semble-t-il que c'est le primaire qui est concerné par rapport à toute l'organisation qu'a mis en place Payon, qui devrait prendre effet dès la rentrée 2013 en matière de semaine de 4 jours et demi. Alors c'est paradoxal parce que finalement, quand on en parlait, y compris d'ailleurs une grande partie de la droite était d'accord, et dit c'est pire, en plus l'Europe c'est comme ça, faut y revenir, c'est même pas discutable, il faut revenir ces 4 jours et demi. Et puis voilà que tout finalement se gâte parce que Payon, par son tempérament un peu capricieux, pour ne pas dire pire, prend un rebrousse-poil, ce qu'il ne faut jamais faire avec les enseignants. Il ne faut pas les prendre à rebrousse-poil. Et d'ailleurs, il y a des précédents. Allègre était le ministre de l'Éducation nationale qui a connu les mêmes problèmes avec les enseignants. Et ce qui est paradoxal, c'est que des problèmes de forme, finalement, finissent par troubler les problèmes de fond. Et là, alors que visiblement, d'ailleurs, il y a des choses qui ont été des modifications apportées, par exemple sur Paris, où les enseignants du primaire sont nombreux à vouloir manifester, eh bien, Delanoë a annoncé que, eh bien, lui se chargeait effectivement de compenser tout ce que ça allait provoquer en termes d'emploi complémentaire et en termes de coûts supplémentaires. Donc, le Payon a dit la même chose. Il a même laissé entendre que quand ça ne serait vraiment pas possible de mettre les choses en route en 2013, on le fera en 2014. Mais, comme on dit, c'est trop tard. Les enseignants ont dit on ne veut pas être traités comme ça. Ben voilà. Et donc, demain, il y aura une grève nationale.
Voilà, on arrive au terme de ce Canu Info. Je vous rappellerai que du 6 au 16, il y a le festival Quand les souris dansent à la Croix-Rousse, que Papy expose sur le thème parcours de demandeurs d'asile à l'autre côté du pont du 3 au 28 février, 25 cours Gambetta, donc une expo de sérigraphie. Et puis Monsieur Toubli, théâtre à Vaux-en-Velin, la belle rousse et la lune, c'est la croix rousse dont il s'agit à tout bout de champ jeudi. Et puis voilà, la manif, ben, je vous l'ai dit. On va se quitter pour terminer ce Canu Info avec Catherine Sauvage qui chante Jacques Prévert, Les gentils enfants d'Aubervilliers, est-ce de circonstance ?
Gentils enfants de la misère, gentils enfants du monde entier, gentils enfants d'Aubervilliers, c'est les vacances et c'est l'été. Mais pour vous, le bord de la mer, la Côte d'Azur et le grand air, c'est la poussière d'Aubervilliers. Et vous jetez sur le pavé les pauvres dés de la misère et de l'enfance désœuvrée, et qui pourrait vous embalamer. Gentils enfants d'Aubervilliers, gentils enfants des prolétaires, gentils enfants de la misère, gentils enfants du monde entier.